Et vous écoutez France Culture. Bienvenue à la boucherie. Vous dansez, mademoiselle. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Après une descente dans l'antre du dragon, entendez l'atelier de Philippe Druillet, Mauvais Genre tente ce soir une seconde incursion. Cette fois dans la fosse au décor et le laboratoire central du ZEREP, compagnie théâtrale animée par Sophie Pérez et Xavier Boussiron, virtuose du chaos bien tempéré et paysagiste d'un théâtre où passent en trombe Jérôme Bosch ou Gombrowicz, as de la table de désorientation et du passage à tabac dramatique, bref, la villa Mon Rêve du théâtre Mauvais Genre. Céline.
Oui, cher François. Écoutez, je suis présentement à côté d'une énorme blade. Vous connaissez mon goût pour les animaux, n'est-ce pas ?
Yes, surtout et, les pires.
Et dans une forme de corps à corps, je dirais, avec une chose assez spongieuse et gluante, à tête de vulve, ce qui nous donne une sorte d'indication.
La blade à tête de vulve.
Oui, une sorte d'indication sur l'identité sexuelle de cette créature qui possède par ailleurs 6 yeux, une robe beige orangée et un nombre de pattes que je vais compter là sous vos yeux. 6, ce qui veut dire que c'est bien un insecte. Je suis collée à elle, car
vous
la bête est spongieuse.
Voilà, vous êtes littéralement adhérente à la blade vaginale.
Qu'est-ce c'est que ma taille,
c'est
hein.
Les 6 yeux, c'est des yeux, on dirait des boutons également.
Écoutez, si vous, normalement, si vous appuyez sur un œil, c'est une blade chantante en fait.
Une blade chantante.
Elle est capable de se mettre à chanter dans la seconde.
Appuyez sur un bouton.
Allons-y.
Non, ah, elle n'est pas branchée.
Elle est sur
le 110.
Xavier Boussiron, de quoi s'agit-il, la blade
c'est
vaginale
un, c'est un rôti vagin.
Un rôti vagin.
Un rôti vagin, yeah. En effet. C'est une larve d'inspiration de science-fiction et qui a cette particularité d'avoir cette bouche, non pas horizontale, mais verticale. Et d'où le changement de musique, car ça peut rappeler les manches-disques.
Ah, c'est un manche-disque et la fente est une fente vaginale.
C'est un manche-disque vaginal.
Les 45 tours par la fente. Sophie Pérez, vous confirmez ces informations ?
Absolument, c'est un de nos petits animaux fétiches qui a été utilisé par Stéphane là, il y a un mois.
Stéphane Roger.
Et donc, il le manipulait en jukebox à cheval sur la bête.
Elle avait fait une première apparition dans Oncle Gourdin, où dans l'idée, elle apparaissait dans un troupeau de rôtis vagins. Et c'est vrai que le lutin Anjan avait une relation extrêmement intime et particulière avec elle.
Comment fabrique-t-on cette créature de vulve ?
On a un sculpteur avec qui on travaille depuis toujours, depuis le début des spectacles, qui s'appelle Daniel Mestanza. Et donc nous on dessine avec Xavier et puis il réalise...
Plus envie, les plus profondes.
Ouais, on fait des crobats, on fait des maquettes et lui il les réalise. Donc il a fait l'oiseau, il a fait le cheval, enfin tous les accessoires du ZEREP, toutes les sculptures, c'est lui qui les fabrique.
Mais à l'origine de la blade vaginale manche-disque, il y a un rêve, une vision, un cauchemar.
Non, un rêve, non, parce que tout.
Une opportunité.
Un joli rêve.
Beaucoup de rêves ont été réalisés jusqu'ici.
Oui. C'est,
non, il y avait ce standard de Verhoeven.
Oui, Starship Trooper.
Ouais. Starship Trooper, qui est un très très bon film de
avec des araignées,
des garçons coiffeurs, tout ça, ça fait un mélange.
Et la mâchoire carrée de Casper Von Dien.
Voilà, et c'est vrai que la reine mère des insectes aussi agressifs et revendicatifs a beaucoup inspiré le rôti vagin. Et c'est vrai qu'au gré du dessin, on fait le et puis tout d'un coup, ça ressemble à des parties génitales et tout ça. On se dit c'est peut-être intéressant visuellement, pas symboliquement, mais juste visuellement.
Non, puis on se demandait ce que les lutins chassaient. C'était ça l'objet.
Oui, c'est vrai.
Les lutins, donc le gourdin, partaient à la chasse. Dans la pièce, régulièrement, on disait qu'ils partaient à la chasse. On se demandait ce qu'ils pouvaient bien chasser. Et donc, on a imaginé un animal. Mais alors, l'idéal aurait été d'en faire 200. Mais donc, on s'est dit que dans la pièce, il en ramenait qu'un.
Bah oui.
Et on s'est dit quel troupeau dans la forêt pourrait être intéressant. Et on est arrivé à cet objet-là, cet animal-là.
C'est un objet de transition incantatoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils l'ont chassé, il y a une sorte de rituel comme ça où, On ne comprend pas bien dans la pièce d'ailleurs, mais ça fait une très, fait une très belle scène, ça fait partie des nombreuses choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes dans les
moments forts.
Oh, merde.
Ça fait un moment très fort, merde, mais une fois qu'ils l'ont chassée, elle est là, ils sont tous en train de la célébrer, et puis on passe directement à autre chose.
Parce que souvent, au début des pièces, on dessine des objets qui nous prennent beaucoup de temps, qui sont compliqués à fabriquer, et après on les a et on est obligé de les utiliser. Parce qu'on part du principe que si à un moment on y a pensé, c'est qu'ils doivent être là. Et souvent, on est emmerdé avec les objets. Par exemple, la poupée de ventriloque de Charles Aznavour. On a mis des mois à la fabriquer. Et après, on ne savait pas quoi foutre de cette poupée de ventriloque. Oui. Et finalement, Sophie Lenoir faisait de la poterie avec lui. Mais voilà, donc on a comme ça une cosmogonie d'objets, d'idées, de textes. Et on est obligé d'utiliser tout. Ça, c'est une des chartes, même si c'est deux secondes, ça passe. Et ce qu'on aime bien, c'est quand ça prend beaucoup de temps à fabriquer ces objets, qui coûtent cher, parce qu'après, on les a et on est très emmerdé d'avoir ce truc. Et on se dit, est-ce qu'ils sont aussi intéressants que les êtres humains? Et c'est ça qu'on met en porte-à-faux.
C'était donc Oncle Gourdin.
Ouais.
Tu veux bien me dessiner, s'il te plaît, Sophie?
Non, Gilles, je t'ai déjà dit non.
Et je peux te demander pourquoi?
Écoute, n'y vois rien de personnel, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on vend la peur, dont on l'exorcise, dont on en a honte, finalement la peur d'avoir peur. Puis moi, tu vois, les grosses grenouilles, ça me fait pas peur, et puis ça me fait pas rire non plus.
À quoi ça sert alors de se mettre dans des états pareils?
Ça sert à rien, on n'est pas des épiciers. C'est une forme d'action, une manière d'être, un style de survie.
Tu sais quel est ton problème à toi, Stéphane?
Non.
C'est que tu es un amateur, voilà ce que tu es.
Un sur-amateur. Les professionnels sont des pompes à merde. Le monde se divise en deux catégories d'hommes, les ratés et les inconnus.
Dans vos spectacles, tous ces objets, tous ces accessoires, tous ces éléments de décor sont soumis à rude épreuve. En fait.
Oui.
Il y a une frénésie de destruction qui s'empare de vos personnages. Donc, ils sont construits en plusieurs exemplaires. Ils ont des normes de solidité particulièrement importantes.
Il y a un crash test.
Non, mais c'est vrai que Dan, qui travaille avec nous, nous dit, mais alors ils vont monter dessus? Oui. Ils vont tirer les pattes? Oui. Ils vont mettre du liquide dessus? Oui. Et, parce qu'après, l'humain bataille pour être plus fort que l'objet. Et donc, les pièces, c'est que ça. Et comme dit Stéphane Roger, je vaux moins qu'une commode aux EREP.
Bonsoir Paco Ptielman.
Bonsoir François, bonsoir Xavier, bonsoir Sophie.
Bonsoir Paco.
Salut Paco.
Alors c'est bientôt l'évolution Ganesha de Paco Ptielman. Vous allez vous transformer en divinité éléphant.
J'espère bien.
Racontez-nous un peu là.
Je suis face à une grande tête de babar qui décompose toute mon enfance, et tant mieux d'ailleurs. On va la sortir un petit peu. Il est extrêmement réaliste.
Si on s'en tient au réalisme, bien sûr.
Ah oui, c'est un futur babar.
Et qui, j'imagine, est prévu pour une prochaine pièce du Zerep.
Voilà, mettez la tête de babar.
Bien sûr, je vais d'abord le chapeau de cow-boy électrique.
On connaisse enfin la divinité qui est en voir. Là, vous êtes magnifique, là. Alors là, c'est pareil, Xavier Boussiron, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un futur culte à la divinité hindoue? Ou est-ce que c'est effectivement Babar qui vous attend?
C'est exactement entre les deux.
Tu veux le garder, Paco ou
Mais c'est pas Babar, c'est Babarman. C'est le seul éléphant qui arrive vraiment à se conduire comme un être humain. Ce sera forcément le héros de la prochaine pièce qui est une pièce pour enfants, exceptionnellement. On a toujours cru qu'on faisait des pièces pour enfants, mais celle-ci sera vraiment
véritablement pour enfants.
Ouais, elle sera créée au mois de mai.
Où ça?
Au théâtre de Nanterre.
Babarman, de quoi s'agit-il? Alors, par rapport Babarman, à Babar d'origine.
C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on n'aurait jamais les droits de Babar, puisqu'on fabrique. Et connaissant la famille, donc avec les mugs et les t-shirts, et on s'est dit que forcément ils allaient nous refuser ce qu'on fasse de ce pauvre Babar. Donc on l'a appelé Babarman. Le costume sera pas vert. Il a l'œil un peu plus mélancolique.
Il a des grands cils
ouais.
courbés, magnifiques, là. Ouais. Il a un joli œil sombre, et puis c'est d'un beau gris.
Mais il est pris par une sorte de passion triste, comme ça.
Ah, c'est un babar mélancolique.
C'est un babar légèrement spinoziste. Ah. Tu vois, enfin, pour ceux qui aiment le jazz. Il joue du spinophone.
Il a eu le pouvoir, il l'a renoncé comme le roi Salomon.
Il a
voilà, c'est ça, il hésite.
Il est obsédé par l'abdication, par le renoncement à la responsabilité, tout en se disant que fondamentalement, pour aider son prochain, même si c'est un crétin fini, il faut faire une sorte d'effort dont il se sent pas toujours capable, psychologiquement, je veux dire.
Ouais. En fait, il fonctionne comme les super-héros modernes, comme le Batman moderne par rapport au Batman ancien.
Oui,
ce serait un renouvellement de Babar avec une psychologie torturée.
Mais le Batman moderne, autant l'ancien était très jungien, le dernier est bassement freudien.
Oui.
Donc il a des doutes un peu ordinaires.
Oui.
Je vois Antoine Guillot dans le fond de la cave.
Devant 200 paires de chaussures. Quand
200 paires de chaussures, ah oui.
Parce que le soulier est très important, vous verrez
pas. Absolument.
Et 400 perruques.
Je vois que le soulier est important, mais pas seulement la voûte plantaire, manifestement. Vous en prenez grand soin, parce que je suis devant un jacuzzi spa d'une marque que je ne peux pas citer, mais qui a fait beaucoup pour la voûte plantaire de nos aînés. Et manifestement, c'est un accessoire important. Je ne sais pas si c'est avant, après ou pendant les spectacles. Et au-dessus est posée une sorte de tête de poisson, voilà. Sans doute. Plusieurs têtes de poissons ont manché les unes dans les autres.
Ouais,
voilà.
C'est les masques du premier spectacle.
Les poissons rouges sans chasse.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces poissons, dans le
C'était
tout premier
C'était le premier spectacle, qui était l'adaptation d'une méthode pour apprendre à nager sans eau, qui a été écrite dans les années 30.
C'est un hommage à Esther Williams.
Voilà, et qui s'appelait... pas Chihuahua, mais où est donc passé Esther Williams? Et donc, où les types apprenaient à nager dans une piscine vide.
Oui, c'est la méthode de Jean-Pierre Brisset.
Voilà, voilà. Et c'était le premier spectacle, ça. Et on avait fait vider la piscine qui est rue Robert Kampf.
Je vois que vous avez botté en touche pour le spa pour les pieds.
Ah, c'est du matériel personnel.
C'est un cadeau d'anniversaire.
Ouais. C'est-à-dire que c'est une période où on était
obsédé. Il y a un maxi cosy aussi.
C'était une période où on était obsédé par la vieillesse.
On pourrait dire aussi qu'il y a quand même un cadavre de cheval qui s'appelle Bidouille.
Ah, il y a Bidouille.
Il y a Bidouille là, qui vous caresse la patte.
Oui, Bidouille qui se repose.
En quoi est-ce fait ce...
Bah, c'est du latex,
En lycra. C'est un cheval en lycra.
En tweed. Il est en tweed.
En mohair.
C'est-à-dire qu'il est mort, mais il est en lycra.
Ah, mais là aussi.
Et puis il y a Patricia aussi, je crois, qui est cachée là-dessous.
Elle dort.
Alors montrez-nous Patricia.
Patricia.
Bah, c'est un moineau de...
Attention.
Elle a une grosse conjonctivite, petite.
Et elle pue du bec.
Et ouais, elle pue du bec et elle a toujours les yeux fermés.
Bien, bah, nous allons laisser le rôti vagin, Bidouille, Babarman et les 200 paires de chaussures pour monter vers le premier étage.
Il y a un coussin péteur. Bravo, Paco.
J'étais toujours angoissée et méfiante lorsque nous passions à table. Mon père parlait tout le temps. Il essayait de nous séduire en racontant ses histoires, en crânant, en se mettant en valeur. Il prenait tellement de place que nous nous sentions inexistants. Un soir, c'est devenu insupportable. Nous nous sommes jetés sur lui. Mes deux tantes, mon petit frère, ma mère, nous l'avons assommé, traîné sur la table, écartelé, déchirant ses bras, ses jambes. Nous l'avons démembré, vous voyez. Nous l'avons si bien réduit en bouillie que nous l'avons mangé. Terminé.
Culture, mauvais genre, François Angélier.
Ah. Voilà, dans le laboratoire central, c'est-à-dire l'atelier Xavier Boussiron, entouré de guitares, d'amplis, claviers. Antoine Guillot, vous qui êtes pianiste, vous allez bien nous faire une petite description.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressemble effectivement à un clavier avec plein de boutons dessus et de diodes allumés, des petits outils qui nous laissent à penser qu'on trafique les sons ici. Il y a à côté beaucoup de pédales à terre, il y en a bien une quinzaine, je pense, des amplis.
Des amplificateurs.
Avec des formes étranges dont on ne sait effectivement si on est dans la sculpture contemporaine cinétique ou si, si elles ont réellement une utilité. Ils sont pendus au mur un certain nombre de guitares tout à fait électriques avec des cordes qui dépassent de partout. Le tout surveillé par un crâne gigantesque coiffé d'un...
Un baron samedi, on dirait une divinité vaudou.
C'est ça.
Et un dessin effectivement de ce babarman qu'on a vu réalisé en bas. Donc on peut comparer entre la forme ramassée de cet éléphant qui lève la tête et laisse apparaître sa couronne et ce qu'on a vu.
On est dans la tête de Xavier Boussiron, il y a Roy Orbison et puis surtout à gauche.
Il y a Wildman Fisher.
Voilà.
Le vinyle original de An Evening with Wildman Fisher.
Voilà. Je pense qu'à l'époque, c'était le vinyle que j'avais payé le plus cher.
Alors, quelques précisions sur Wildman Fisher, Xavier Boussier.
Ah, mais je ne laisserai pas Paume.
Alors, pas Paume.
Bah, c'était un chanteur de rue que Zappa, Biff Hurt et Tom Waits adoraient et qui avait fait pas mal de séjours en hôpital psychiatrique et qui faisait des chansons extrêmement bizarres. Qui sont Merry-go-round, Merry-go-round, Choo-choo-choo. Et Zappa lui a produit un disque, un double album. Et malheureusement, il a dû se séparer de Wildman Fisher parce que Wildman Fisher, quand il piquait des crises, il prenait les jouets des enfants de Zappa, il les jetait sur les enfants hyper violemment comme ça.
Céline Duchesnay.
Et puis vous pourriez nous parler aussi du petit cochon que votre tante vous a offert. Ou mieux encore, Xavier. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur ce livre Clovis Trouille ? Je crois que vous avez volé chez un proctologue d'après mes informations.
C'est chez mon proctologue, c'est vrai que sous une pile de Géo, j'ai trouvé ce livre et moi qui ne suis pas du tout voleur, je l'ai subtilisé parce que c'est quand même aux éditions Eric Losfeld.
Quand même.
Ce qui n'est pas rien. Clovis Trouille chez le proctologue, c'est quand même une espèce de chicane symbolique absolument magnifique.
Et qui pourrait peut-être correspondre aussi à, je dirais presque, vos influences musicales, parce que la peinture fait partie de vos influences musicales fortes, je dirais.
Mais est-ce
qu'il y a du rythme chez Clovis Trouille ?
Ah oui, il y a beaucoup d'arrangements surtout. C'est un grand, grand arrangeur. C'est une sorte de Pérez Prado de la peinture réaliste. Sauf que en guise de maracas et de trombone, on trouve des nonnes et parfois des paysans qui sont en train de draguer des filles en bikini.
Ça donnerait quoi en rythme ou en son ? Je sais pas, dans cette pièce, quelque chose qui pourrait
ça donnerait peut-être ça. Mais regardez, mais je suis pas certain parce qu'il est beaucoup plus précis que ça. Peut-être que ça pourrait donner ça, mais sait-on jamais. De Babarman pour les gosses. Hein.
Mais
un peu de Clovis Trouille pour les gosses, ça fait pas de mal.
Babar, Clovis Trouillé par Pérez et Boussiron. Alors, si vous voulez bien, on va essayer pour les quelques auditeurs qui nous restent d'abord d'évacuer les mots interdits.
Ah,
oui. Ah.
Alors, il y a foutraque, déjanté, trash.
Trash, oui. Trash, ça a été le premier.
Jubilatoire.
Kitsch.
OVNI.
OVNI. Foldingue.
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 Déjanté.
Déjanté.
Déjanté. Ouais. Alors ça, c'est tous les mots qu'on emploie le plus souvent à votre propos et que vous ne supportez plus d'entendre. C'est un peu la doxa, c'est le discours de base de ceux qui veulent en définitive ne pas parler de vous tout en parlant de vous.
Ça crée des contresens parce que on a plutôt une manière de faire qui est extrêmement disciplinée. Attentive,
réfléchie,
pas toujours bienveillante, c'est sûr, mais c'est vrai que foutraque, par exemple, n'est pas vraiment dans nos secteurs d'activité, on dira.
C'est-à-dire que, c'est comme si on disait que Fellini, c'est foutraque. Ça serait super étrange. Donc c'est vrai que c'est des termes qui réduisent la forme même du travail, en fait.
Alors la compagnie du Zerep a été fondée en 1997 avec Pérez à l'envers. Donc,
c'est vrai que j'ai cherché un nom de compagnie. À l'époque, j'étais un peu jeune, alors il y a toujours des noms de compagnie à pleurer, le troisième coup, le voile, le pendrillon mal accroché. Puis on se dit c'est des termes qu'on va utiliser souvent, donc je me suis dit Pérez à l'envers, c'est mieux.
Alors avant, vous aviez fait quand même la Villa Médicis.
Il y avait le Trompax aussi.
Le Trompetax.
Trompetax.
Qu'est-ce que vous avez fait à la Villa Médicis? Qu'est-ce que vous avez fait à la Villa Médicis?
Je ne sais plus.
Justement, vous allez nous dire.
J'étais là-bas, moi.
Ben oui.
Et en fait, j'ai eu la chance. En fait, je l'ai passé le concours, j'avais 22 ans, donc je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait vraiment, et donc je pense que j'ai passé ce concours d'une façon assez inconsciente et avec une énergie, ce qui fait que je me suis retrouvée là-bas, et donc j'ai été débitrice de la bourse au bout de 2 mois parce que j'avais jamais eu autant d'argent de ma vie, et je faisais des fêtes tous les soirs à Rome. J'avais scotché le code de la villa, et donc il y avait tous les Romains qui venaient chez moi, et donc j'ai beaucoup fait la fête. Je me suis beaucoup amusée, et par contre j'ai commencé à travailler en fait un peu là-bas.
Parce qu'à l'issue d'un séjour à la Villa Médicis, il y a notamment une œuvre, une cantate par
exemple.
Oui,
mais alors le plus dur, c'est peut-être
quoi, dans votre cas,
en fait c'était l'adaptation d'une méthode pour apprendre à nager sans eau qui a été écrite dans les années 30, et l'idée c'était de faire un parcours d'après ce texte dans les termes romains, ce que j'ai absolument pas fait parce qu'on fout rien là-bas, hein. Et donc j'avais
depuis toujours à part Bougreau.
Et donc après, quand je suis rentrée à Paris, j'ai fait donc le premier spectacle qui était j'étais partie à la villa pour travailler là-dessus, et j'avais donc 150 mètres carrés vue sur Rome. J'avais une table pour dessiner, une table pour écrire. Et quand je suis rentrée, j'ai fait mon premier spectacle en fait.
Et en 2001, c'est l'apparition, je dirais, de la fan base, de la troupe de base qui est encore avec vous aujourd'hui.
Oui.
Stéphane Roger, Sophie Lenoir, Françoise Klein et Marlène Saldana. Comment vous les avez trouvés? Pourquoi vous les avez choisis? Et qu'est-ce que vous cherchiez? Parce que Stéphane Roger, on peut difficilement... Vous l'avez quand même cherché. C'est quelqu'un...
Alors, en fait, je vais commencer...
Vous aviez l'idée d'un Stéphane Roger et un jour, il s'est incarné.
Mais je l'appelle mon museau, hein, parce qu'il n'y a pas de mot masculin pour muse. Donc, je l'appelle mon museau. Mais avant ça, comme je dessinais, je suis allée chercher pour le premier spectacle des acteurs à la NPE du spectacle qui ressemblaient à mes dessins, ce que je ne ferai plus jamais. Et donc j'allais avec mes dessins et je cherchais des types ou des nanas qui ressemblaient à mes dessins. Et sur le premier spectacle dans la piscine, donc j'avais que des acteurs qui travaillaient plus depuis des années et qui étaient très mauvais. Donc j'ai pu expérimenter le côté visuel. J'avais trouvé donc un artiste de cabaret qui s'appelait Norbert Krief, qui était l'homme qui a fait rire Brigitte Bardot. Et Salvador Dali avait écrit un texte sur lui. Et je l'avais trouvé dans un resto, et c'était un alcoolique patenté. Et donc je lui donnais de l'exomile pour qu'il joue le soir. Et je lui avais dit dans tous les festivals, parce que c'est le premier spectacle, tu ne parles à personne. Et j'avais dit que ça avait été l'assistant d'Heiner Müller. Et les gens me disaient, mais ce type est génial. Et je l'avais mis sur un plongeoir avec Xavier qui jouait de l'orgue en face. Et il me disait, je parle pas aux gens, hein, Sophie. Je dis, non, tu parles à personne. Et tout le monde me disait, ce type est incroyable. Et je dis, ouais, ça a été l'assistant d'Heiner Müller. C'est vrai que ça a été le premier, c'était le radeau de la Méduse, le premier spectacle, hein, parce que j'avais pas encore mis en branle toutes les règles qui constituent aujourd'hui le travail.
Et donc, vous avez des règles qui constituent le travail?
Ah oui,
vous, la reine du food track, bah, vous inventez.
Mais oui, absolument.
Et bigre.
Et donc, après tous ces gens, après ce Norbert, je me suis dit, il faut quand même trouver des... Il doit y avoir des acteurs qui peuvent correspondre à ça.
Et voilà.
Stéphane Roger, Sophie Lenoir. Et voilà, ça a commencé avec eux sur le deuxième spectacle.
Et Antoine Guillot également.
Il y a un livre, je crois, qui a compté beaucoup pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez découvert à Rome quand vous étiez allé à Villa Médicis. C'est ce livre magnifique qui répertorie tous les figurants des films de Fellini.
Oui.
Il y a quelque chose de la gueule, qui est importante. Je vois ici Diane Arbus derrière vous. C'est quelque chose qui fait partie de votre esthétique.
Et c'est vrai que ce livre, je l'avais trouvé à New York, et c'est un jeu qu'on a souvent, mais qu'on fait dans les spectacles. On regarde les gueules des figurants et on cherche le sosie de plusieurs personnes. Ça nous amuse beaucoup. Et on passe des heures à faire ça. Donc,
livre annoté avec des petits bouts de papier, eux-mêmes annotés. Et là, le jeu des ressemblances, effectivement, est frappant, puisque sur la photographie d'un garçon un peu replet et extrêmement sérieux, il est marqué Sarko en Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce livre?
qu'on a dû imaginer lors du voyage de Sarkozy. Ouais, bah alors là, faut que je refasse le lien, mais ça devait être, on devait être super sûr de notre coup, ouais. C'est-à-dire que.
Mais il y a. Alors, je me souviens plus.
C'est difficile.
Là.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est l'énigme de l'immédiateté. C'est-à-dire que voilà. Il doit y avoir Nick Cave quelque part.
Oui, oui,
et c'est vrai que s'il y a bien une chose qui a manqué à Nick Cave, c'est de tourner avec Fellini.
Et Xavier Boussiron, alors lui, s'est incarné à quel moment?
Alors lui, il est arrivé, il faisait juste la musique. Lui, il venait de l'art contemporain. Donc quand je sentais confusément que je m'ennuyais beaucoup avec les gens de théâtre. Oui. Et ce que j'avais travaillé avec toute la clique, Bouchot, tous ceux qui étaient avec Gabili, et c'était vraiment à se foutre une balle. Et je me suis dit, je pourrais pas continuer dans ce milieu-là. Et j'ai rencontré Xavier. Et j'ai d'abord entendu son disque « Rien qu'un cœur de poulet », qui était des reprises de Roy Orbison. J'ai écouté ce disque et j'ai ri toute seule chez moi. Et je me suis dit, c'est insensé, qui est ce type? Et donc j'ai fait une soirée où il y avait Al Hartley. Et comme je voulais pas me retrouver en tête à tête avec Al Hartley, j'avais invité Xavier, qui arrive avec deux.
Il y avait beaucoup de monde, hein, ouais. Je vous rassure. Nous étions une trentaine quand même.
Et donc, Xavier est arrivé avec deux superbes filles. Il arrivait d'une résidence à Los Angeles. C'était, moi, j'arrivais de Rome, donc c'était un peu la battle. C'était un peu la battle. Moi, j'arrivais d'un truc un peu plus archaïque. Lui, il arrivait de Los Angeles et moi de Rome. Et puis, voilà, j'avais écouté son disque. Il a commencé par faire les musiques des spectacles, en fait.
Penser à qui?
Oh bah lui, c'est Olivier Py, lui. Avec la chemise de BHL un peu, non?
No comment.
Xavier Boussiron, alors comment c'est bricolé, je dirais?
Eh bien, les premières répétitions auxquelles j'ai assisté, j'étais assez confondu, en fait. Parce que je trouvais qu'il y avait une... Ah, c'est vrai que le théâtre, moi je m'étais arrêté à deux trucs de Beckett et un truc de Deschamps. Et c'est vrai que je voyais tout ça et je disais aux acteurs, vous faites souvent de l'expression corporelle comme ça. Donc les mecs me regardaient de travers. Et puis ce qui s'est passé, c'est que la première pièce, donc Sophie en a fait le résumé. Et pour la deuxième, c'était une époque où il fallait plus qu'il y ait de texte, où il fallait pas que les gens parlent. C'était une espèce de tête d'image. Et moi, je trouvais ça assez bête, parce que s'il y a bien un endroit où les gens parlent en connaissant des trucs par cœur, c'est le théâtre. Et à partir de ce moment-là, on s'était demandé si... Enfin, on avait discuté sur l'idée du texte, peut-être des dialogues. Et très vite, on a écrit un premier dialogue pour détail sur la marche arrière. Et on a beaucoup ri quand on a écrit le dialogue. Et donc, on est devenu dialoguiste. On a commencé à vraiment écrire du texte. Et les choses se sont faites comme ça. Donc un peu de musique, un peu
alors
de texte.
Alors vous, parmi les musiciens qui vous ont marqué, il y a Picabia, Jarry, Chessac et Gombrowicz.
Oui.
C'est-à-dire que vous allez chercher la musique derrière...
Ah non, il y a plus de musique parfois chez Picabia ou Gombrowicz, que même chez Sack, que chez Tchaïkovski, par exemple. Ce qui m'a beaucoup inspiré en peinture, ce sera des gens comme les Residents, comme Zappa, forcément, comme qui je pourrais
John
vous dire...
John Cage.
Assez peu John Cage, en fait, assez peu. Plutôt Burt Bacharach. Qui était dans la même classe d'ailleurs, hein, quand ils étaient au conservatoire. Et Burt Bacharach raconte qu'il allait voir les trucs de John Cage et qu'il trouvait ça complètement idiot.
Antoine Guillaume.
Puisque le texte a surgi tout d'un coup et qu'on a derrière nous beaucoup de textes, parce qu'on a parlé des instruments de musique, mais aussi une considérable bibliothèque dont on pourrait tirer quelques livres ici
et
là.
Ça pourrait être... et Antonin Artaud, tout
voilà, ou ça pourrait être les maîtres du désordre d'un côté, ce qui est assez bien vu, voilà, et le livre de Marc Adet sur Marcel Duchamp. Ouais. Et votre façon d'utiliser les textes, que ce soit de Shakespeare ou d'Olivier Py, excusez-moi du grand écart, est une démarche duchampienne. C'est-à-dire, il y a un côté objet trouvé. Alors, je ne vais pas comparer un urinoir au texte d'Olivier Py, mais il y a cette façon de se réapproprier à la manière de Duchamp des objets connus ou pas trouvés.
Oui, c'est vrai que Gombrowicz disait le pire au théâtre, c'est le metteur en scène. Et c'est vrai que l'idée de manipuler les textes et de s'en servir comme d'un matériau, comme la lumière, comme les acteurs, comme les objets. Moi, je pense que le théâtre, c'est la grosse boîte noire où tout peut surgir. Moi, je dis souvent qu'on prend le théâtre par tous les bouts, quoi. Donc, c'est vrai que le texte est manipulé de la même façon, en fait. Et pourtant, on a voulu tenir, quand on a monté Lorenzaccio, qui s'appelle Laisse les gondoles à Venise. Voilà. On a donc lu, on a fait une sorte de travail à la table qui a duré un quart d'heure, mais on a fait les 37 scènes et on n'en a gardé que deux. Parce que ça nous semblait résumer la pièce avec les deux scènes. Mais c'est vrai que on part toujours de textes. Il y a des commandes aussi qu'on fait souvent qu'on a fait à Pacôme, notamment, à Jean-Yves Jouannet, à Arnaud Labelle-Rojou. Et c'est vrai qu'on aime bien que le texte théâtral soit un peu malaxé et utilisé. C'est vrai que quand il y a la lecture de Claudel, par exemple, pour Oncle Gourdin, on s'était dit les lutins vont faire toute l'histoire du théâtre. Et on était à l'atelier, justement, et je dis à Xavier, tiens, lis-moi du Claudel, et je me suis endormie, en vrai.
Ça dépend, il vous a lu quoi ?
Alors, c'était
parce
le partage.
Y a un amateur, là. Attention.
Attention.
Ah oui, mince.
Encore Léon Blois, ça va, mais Claudel, faut pas y toucher. Hein.
Attention. Le partage.
Ah bah oui. Le et grand donc, mal dans la gloire de midi, très bien.
Et donc voilà, donc Xavier m'a lu du Claudel et j'ai dit tiens, on pourrait lire du Claudel pour que les lutins arrivent à s'endormir le soir. Donc voilà, tout est prétexte à fabriquer ces choses-là, quoi. Mais
il y a quelque chose que je trouve vraiment proche des résidences. Tu parlais des résidences tout à l'heure, c'est de faire une histoire des formes, mais dans leur décomposition.
Mais quand tu parles de décomposition, c'est pas fou, parce que c'est vrai qu'il y a il y a ce paradoxe inextricable dans l'enjeu même de la création, c'est que tu crées quelque chose en étant un peu le fossoyeur à la fin. Donc c'est en ramassant des bouts de cadavres, c'est Frankenstein. Mm-hmm. Tu ramasses des bouts de cadavres que tu essayes de reconstituer, pas pour faire des sortes de lasagnes en fait. Tu vois, et tu sais jamais vraiment d'où vient la viande au bout d'un moment. Et il y a un problème de traçabilité dans ces moments de création parce que toutes les, c'est vrai qu'en Dean Martin a raison, puis Artaud aussi a raison. Donc c'est compliqué d'être au milieu de ce monde.
Céline Duchesne a raison également.
Partir de texte, mais partir de titre aussi, la question qu'on peut se poser quand on voit par exemple le titre de certains de bon, parlons de vos albums.
On va donner les titres, Madame Duchesne.
1995, donc cet album que vous avez cité, Sophie Pérez, Rien qu'un cœur de poulet. Je suis assez sensible à cet album sorti en 2001, Donne-moi ton sperme. 2004, Menace de mort et son orchestre. Comment ça se passe? Expérience qui donne un titre, titre qui donne la musique. Par quel bout faut-il prendre les choses?
Ça, c'est une question très 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 sensible. C'est le point d'orgue un peu incantatoire, le titre. Et c'est vrai que moi je suis très 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 attaché au titre. C'est une. Mais il y a plusieurs obédiences. C'est vrai que le ça, je pense que c'est dû à l'art. L'idée du sans titre qui accompagnait bien des peintures abstraites qui ne racontaient rien était en même temps très 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 précis. Mais c'est vrai que le titre donne une. C'est un peu les dièses à la clé, quoi.
Alors, on va donner les titres, Sophie Pérez. Mais où est donc passé Esther Williams, hein, le titre de vos spectacles, à tous les deux. Détails sur la marche arrière, le ti, le coup du cri candalou, enjambe Charles.
Elle, coup du cri candalou.
Elle, ou pardon.
Il y a eu deux versions.
Le coup du cri candalou. Non, moi, j'ai la version, la seconde édition.
C'est la première édition.
Il y a Bartabas Tabas, Beaubourg la reine, Deux masques et la plume, Oncle Gourdin, Prélude à l'agonie, Biopigs, Et puis récemment
Piège à loup. Le piège à loup.
Voilà. Et dans le futur
Babarman, mon royaume pour un cirque ou mon cirque
voilà,
pour
un royaume. Mon royaume pour un cirque, c'est bien ça.
Et c'est du titre que tout sort.
Bah, c'est-à-dire qu'on a une charte au début où on se dit on part de. Pour la prochaine création, on s'est dit ça va partir de Babar. Parce que ça nous semblait impossible à faire. Et souvent, ça part d'équations assez impossibles, esthétiquement, artistiquement. On s'est dit, faire Babar avec nos comédiens, ça semblait pas jouable du tout. Et du coup, après, on se dit, on n'aura jamais les droits. Donc Babarman, super-héros, et puis après Shakespeare. Et tout d'un coup, ça cadre, ça donne une sorte de démarrage, et ça donne c'est une sorte d'épée de Damoclès, le titre.
Mauvais genre, François Angelier.
Alors, ultime étape de notre circulation à l'intérieur du labyrinthe, le bureau de Sophie Perez. Alors, à côté, il y avait des guitares, des disques de Tchaïkovski. Et là, il y a quoi ? Pas comptuellement. Déchaînez-vous.
Il y a des masques, il y a des animaux morts, il y a des sortes de petites statuettes comme des
pénitents.
Oui, de pénitents, un peu comme des sortes de santons, mais inquiétants. C'est très beau.
Avec une femme nue devant quand même,
Macomb. Je n'ai pas remarqué la femme nue.
Devant les pénitents. Je crois qu'elle a son importance, Sophie Perez. Parce que c'est une petite histoire, quelque part, ces pénitents.
C'est une sorte de petite Gisèle Vienne. Non
La metteur en scène.
Oui. Voilà. Qui est toute terrorisée et inquiète de ces petites figures.
Donc c'est des histoires de mauvaises pensées qu'on a dans la tête.
Ouais. C'est-à-dire qu'on collectionne, moi je collectionne beaucoup d'objets, on fait beaucoup les brocantes, et c'est vrai qu'il y a des objets qui sont les démarrages des spectacles. Par exemple les pénitents, je sais que je ferai quelque chose avec ça, mais... Donc il y a vraiment des objets qui sont que je mets ensemble sur mes étagères et puis je les regarde et puis à un moment je me dis que ça va peut-être faire un spectacle ou que ce serait le démarrage d'un travail.
Alors justement le démarrage d'un travail, on a cité les titres des spectacles, Sophie Perez, est-ce qu'on peut essayer de... j'imagine qu'il n'y a pas un modèle uniforme pour tous les spectacles, une méthode que vous renouvelez à chaque fois, mais quelle est un petit peu la trajectoire pour créer un spectacle? Vous partez de quoi? Est-ce qu'il y a une vision
En fait, il y a une sorte de méthode. Enfin, là, je peux vous parler de la prochaine création. C'est-à-dire qu'on nous a fait une sorte de commande de spectacle jeune public. Et on s'est posé la question... Ah, excusez-moi. Allô?
Allô, Sophie?
Ouais. Excusez-moi.
Je te dérange pas ?
Non, c'est bon. Enfin, il y a pas mal de gens dans l'atelier, mais dis-moi.
Bonne année.
Ouais, bonne année, ça va, toi ?
Ouais. Non, parce que là, je suis un peu... Je broie du noir, comme on dit. Je suis en train de... Je revoyais un texte. Je voulais t'en parler deux secondes. Enfin, de faire une proposition sur le texte de Duras.
Bah vas-y, de toute façon, on se voit dans 15 jours, mais vas-y.
Oui, non, mais bon, si je te dérange pas, c'est bon.
Non, vas-y.
C'est le truc de ça va la baie, tu sais.
Par contre, Stéphane, il y a plein de gens qui t'entendent, hein, mais c'est pas ça.
Ah non.
Ça fait,
bon.
Ouais, ça te gêne pas?
Merde. Bah écoute, je sais pas, non, enfin, on verra, mais. Mais c'est pas long, je te l'ai. Tu ne sais plus qui tu es. Qui tu as été. Tu ne sais plus que tu as joué. Tu ne sais plus ce que tu as joué. Ce que tu joues. Alors là, je pensais prendre une voix de petit garçon, de petit gamin. Que tu joues. Tu joues. Tu sais que tu dois jouer. Tu ne sais plus que tu joues.
Et après, ouais, c'est bien avec la voix de petit garçon.
Ah, c'est pas mal. Et après, je peux reprendre une voix normale.
Ouais, ouais.
Quels sont tes rôles?
Ou une voix plus grave, ouais.
Les enfants vivants ou morts? Ni quels sont les lieux, les scènes, les capitales, les continents où tu as crié la passion des amants, sauf que la salle a payé et qu'on lui doit le spectacle. Tu es la comédienne de théâtre, ouais, un truc comme ça, la splendeur de l'âge du monde, son accomplissement, l'immensité de sa dernière délivrance. Et puis là, je pensais après un truc plus... C'est la fin avec plus de silence, d'espace. Je vais tout oublier, sauf Savannah Bay. Savannah Bay, c'est toi. Savannah Bay. Tu vois, faire un truc plus Savannah Bay. Je vais tout oublier, sauf Savannah. Savannah Bay, c'est toi. Tu vois, je répète, Savannah Bay.
Ah oui, tu fais rimer le truc.
Bah, je pensais que je pouvais faire un truc. Bah,
vas-y.
Je répète, Sophie Savannah Bee. Je suis loin de toi, Savannah Bois. Je broie du noir, Savannah Boire. Tu vois?
Ouais.
Et je marche, Savannah Barche. Je raccroche, Savannah Boche.
Ah ouais.
Et je vous quitte.
Je te rappelle, Stéphane. On...
Qu'est-ce que t'en penses?
Je trouve ça vachement bien. Bisous.
Je te souhaite une bonne année.
Allez, on a bien bossé. Allez, salut Michel Roux. Je t'en prie.
Je pensais à Claude Girol.
Ok, j'en parlerai à Claude Girol. Je t'embrasse.
Bon, allez, je vais faire caca.
Ouais, vas-y. Ciao. Bah, je suis désolé, on a un peu bossé là parce que.
Ah, vous avez raison. Quand l'inspiration est là, il faut s'en saisir. Stéphane Roger, quand même.
Oui.
Le premier ténor de l'USEREP.
Ouais, absolument. Bon museau.
Ces grands moments, quand même. Savannah Bay. Moi, j'ai manqué mourir. Pas comptuellement.
Bah, moi, j'en pouvais plus dans Biopics. Hein, c'était extraordinaire. Vous avez passé en revue toutes les fins du spectacle des autres.
Voilà. Et des spectacles en général.
Comment, en fait, c'est pas votre rapport au monde du théâtre qui m'intéresse, moi, c'est le rapport du monde de théâtre à ce que vous lui faites. Alors, comment réagissent les intéressés, s'ils peuvent réagir?
On en parle dans le dernier spectacle, il y a ceux qui ont du mal à rentrer dedans, qui trouvent que c'est de qualité, que les décors sont beaux, les acteurs sont bons, mais ils ne sont pas rentrés dedans. Mais non, je pense qu'on est un peu... Moi, je dis souvent, il y a un côté daumier. Hein. C'est vrai que c'est cette idée d'être caricaturé, d'être... Donc les gens ont un peu... Je pense qu'il y a de la trouille. Et surtout sur Biopics, l'avalanche de faim fait qu'au début, ça rit, puis après, chacun se demande s'il va être pris dans la farandole infernale.
Il y a un autre truc aussi qui m'avait marqué quand j'ai découvert votre théâtre. J'étais vraiment pas à l'aise, dans le sens où j'avais l'impression qu'en tant que membre du public, j'étais plus joué que spectateur.
Mais en fait, je raconte toujours la même histoire, mais moi, quand j'étais plus petite, même j'avais 11 ou 12 ans, ma mère m'emmenait voir les spectacles de Zouk. Mmh. Et mes grands-mères des opérettes. Et je pense que c'est assez, ça raconte un peu des espèces de terrains de travail. Et je me souviens du spectacle de Zouk quand j'étais petite, surtout quand elle fait l'hôpital psychiatrique, et du rire advenait une espèce d'ambiance crispée. Et c'est ma Madeleine de Proust, c'est-à-dire que je pense que c'est ça le spectacle. Je pense que c'est cette chose, ce dérangement-là, cette catastrophe possible. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait faire? C'est-à-dire que moi, je peux faire de la mise en scène, je peux monter un texte. La question, je crois, des spectacles, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait faire? Et je n'arrête pas de manipuler cette chose. Une fois qu'on sait la faire, et ben, je la détruis. Mais c'est vraiment une sorte de jeu de destruction comme ça de mes facilités ou de cet objet de théâtre que je manipule tout le temps. Mais c'est de savoir ce qu'on en fait de cette chose-là.
Parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est que beaucoup de gens utilisent des sujets angoissants, mais pour résorber l'angoisse, pour faire qu'elle s'éteigne, pour rassurer le, finalement les gens. Genre, vous avez eu une très mauvaise année, mais bon, ce spectacle va vous réconcilier avec la vie. Là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous avez eu l'impression que vous êtes réconcilié avec la vie. Ce spectacle va vous remettre dedans.
Le spectacle est réconcilié avec l'angoisse.
Voilà, c'est
oui.
ça.
Et c'est exactement ça.
Ouais, l'angoisse, c'est quand, un
quand Sophie parle route. De facilité, il y a quand même l'idée de bien faire là-dedans. Et c'est ça qui est très angoissant.
Mais je trouve l'angoisse est un chouette compagnon de route, comme la dépression.
Bras dessus, quoi.
Et moi, je pense qu'il faut se balader avec ces turpitudes.
Ouais. On évoque à votre propos, dans un document interne, comme on dit toujours, le rire comme camarade de chambrée de la mort.
Mais c'est vrai qu'on a cette propension.
Mais le rire est miraculeux. C'est-à-dire que la mort est permanente. Mais c'est vrai que le rire, c'est pas du tout une obsession. Mais malheureusement, il finit par apparaître. C'est cette épiphanie qui garde toujours une énigme imprécise. Quelle œuvre d'art ne porte pas à rire ou ne soumet pas le moindre malentendu? Aucune. Tous les musées sont bourrés. Hein? Non, mais même Buren. Mais Buren s'en est un exemple. S'il y a bien une œuvre d'un comique incroyable, c'est Buren. Il est l'équivalent de Macronet. Vous vous souvenez de Macronet dans les années 70? Qui était cet Anglais qui jouait toujours le serveur de brasserie, puis qui servait le champagne et qu'en mettait un peu à côté. Bah, Buren, c'est une sorte de macroné, comme ça. C'est-à-dire que le comique répétitif, systématique, et ce type veut faire rire. Il le sait. Mais le problème, c'est qu'il est dépendant d'une église un peu étrange où il avance masqué par des bandes de transats.
Ce qui m'angoisse beaucoup dans vos spectacles, c'est que vous rapatriez sur la scène ce qui d'habitude en est totalement exclu. C'est-à-dire les dérapages, les conversations entre soi, éventuellement les petites réflexions qu'on se fait à soi-même en jouant. Normalement, tout ça, on exclut ça de la scène. Ça concerne les coulisses, la cantine, la machine à café, le magasin des accessoires. C'est toute une espèce de petit entourage, de répétition, de choses comme ça. La scène, c'est le grand rituel, la grand messe. Tout est impeccable. Et vous utilisez cette impeccabilité pour rapatrier tout ça dessus. C'est-à-dire que les personnages, brusquement, ça tape à côté. Ils se font des réflexions entre eux, incidemment, comme ça.
C'est de remettre au centre. Et en fait, quand on fait de la poterie dans Jambes Charles, je pense qu'il y a vraiment l'idée de remettre au centre et de recentrer et la catastrophe et le déchet. Et je dis souvent, c'est que moi, ce qui me plaît dans les spectacles, c'est l'espèce de décharge sublime du spectacle, c'est-à-dire les restes, les jeux, les gimmicks, tout ce qui constitue le spectacle, et de remettre cette chose au centre et de la mettre comme une chose en fait essentielle. Et c'est vrai que le travail est là-dessus. Et je dis souvent que moi, le but, c'est d'avoir beaucoup d'argent pour avoir des décors somptueux, mettre Stéphane au milieu, qui se promène, qui zone avec. Et ce serait vraiment le but du travail.
Je me souviens, j'ai un souvenir qui rejoint un peu ça. Une fois, j'étais à Chaillot, rentré dans la grande salle de Chaillot, où il y avait le décor d'une mise en scène d'Antoine Vitesse, mais on ne jouait pas, on ne répétait pas, le décor était vide, et il y avait simplement au milieu l'éclairagiste qui regardait en l'air et un décorateur qui passait l'aspirateur. Et ça crée du théâtre. Ouais. J'ai eu un peu cette impression en voyant ce que vous faites. C'est un peu ça. C'est grosso modo, il y a toute l'appareil du théâtre. Et au milieu, il y a effectivement un type qui passe l'aspirateur et qui fait des réflexions à son pote parce qu'il n'est pas content. Parce que voilà.
Sauf que c'est des tueurs de plateau comme Stéphane Roger, Sophie Lenoir. Parce que après, sinon, ce serait. Parce que beaucoup manipulent ça maintenant. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est des bêtes à jouer, quoi. Je dis souvent, on dirait des Rolls en train de faire des créneaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent zoner, mais sauf qu'ils ont une puissance de théâtre, de jeu, de cabaret, c'est des grands sportifs du plateau, donc, ce théâtre, il peut être fabriqué qu'avec ces acteurs énormes. Parce qu'après, sinon, ce serait peut-être Philippe Ken ou... Voilà.
L'anecdotique.
Ouais, c'est-à-dire
mais,
que...
Mais après, le théâtre, il y a un marronnier funèbre autour du théâtre, c'est le réel. C'est cette putain de vie qui est une espèce d'épée de Damoclès où... en faire les choux gras, c'est vrai que ramener ce qui pourrait montrer un peu de réel, parfois, c'est tragique. Et dans Biopics, c'est ça, c'est que le réel
Biopics,
tragique...
Biopics, rappelons, c'est fait ouais, de c'est fin que qui s'enchaîne.
C'est cette espèce d'avalanche de fin, et c'est vrai que c'est la fin, c'est vraiment la réalité du théâtre. Et pour le spectateur, c'est le meilleur moment, parce que c'est le moment où généralement les pièces se terminent, où il peut regagner le réel tranquillement, et se dire que finalement le réel n'est pas si merdique que ça.
Donc en fait, mon travail est sur l'abstrait de cette femme qui sort de la moutarde. Donc en fait, je m'exprime et ça me soulage. Parce que si je m'exprime pas, c'est les autres qui prennent. J'aurais pas dû dire ça. En fait, l'idée vient d'une fêlure quelque part, d'une impuissance. Des fois, le matin, j'ai du mal à sortir de mon lit, alors je me dis, qu'est-ce qui cloche ? Alors je travaille sur ce qui cloche. Pourquoi pas ?
Where do you come from ?
Dijon.
Céline Duchesnay.
Moi, j'aimerais bien revenir sur ces dispositions scéniques, si on peut utiliser ce terme-là. Je crois qu'on ne peut pas parler de décor vous concernant. D'ailleurs, c'est le terme que vous avez utilisé, enfin que j'ai lu quelque part. Vous parlez d'objet d'art. C'est quelque chose à...
D'objet de théâtre.
D'objet de théâtre. Ouais. D'art aussi, si on pense à votre passé.
C'est-à-dire que c'est vrai que quand on travaille avec Xavier, on travaille beaucoup en maquette. Il faut déjà que l'objet vide d'être humain soit déjà une chose qui raconte dans son dispositif et dans... C'est-à-dire qu'avec Xavier, on est sur les maquettes pendant des semaines où on fabrique les objets, où on dessine, et il faut déjà que le décorum et l'installation d'objets soient déjà une chose narrative, en fait. Et qu'elle existe déjà toute seule. C'est le côté Narnia, quoi. Il faut qu'il y ait un truc de conte de fées ou de cauchemar ou de. Mais il faut déjà que le dispositif scénographique il soit
naturel. Il faut qu'il soit comme un paysage.
C'est souvent un paysage.
T'es en bagnole, tu traverses roches, des paysages, tu te dis pas tiens ce paysage, faut pas qu'il existe. Et ben c'est pareil. Après l'art ça finit par arriver, mais c'est pas grave. C'est comme le problème de la réalité dans le théâtre. Ce truc-là finit par arriver, mais certains le refusent, certains sont obsédés par ce truc-là. Mais ça finit par arriver. C'est ce coefficient un peu angélique et avec un rictus angélique qui fait que ça peut devenir de l'art au bout d'un moment. Mais c'est pas un but en soi, sinon ça deviendrait. Parce que c'est très facile de faire de l'art.
Mais alors, par exemple, cette maquette, les maquettes dont vous parlez, comment vous faites ? Est-ce que c'est, par exemple, on est dans cet atelier, qui est un endroit qui est quand même assez extraordinaire, quand on voit le nombre d'objets qui sont autour de vous ?
Il n'y a pas de maquette pour le coup, parce qu'elle est chez moi, la maquette, là. Mais...
Donc, vous glanez des objets, c'est une histoire de marabout bout de ficelle, et vous arrivez à autre chose ?
On fait des maquettes à 3 cm par mètre, parce qu'on a des petits personnages qui sont à 3 cm par mètre. Donc, chaque maquette est à cette échelle-là, et on fabrique tous les objets en petit, ou alors on met des objets qu'on a trouvés, mais c'est-à-dire qu'on fait déjà une maquette, donc là pour Babarman par exemple, comme les enfants sont dans un chapiteau qui est sur scène, ben on fait le chapiteau, et puis on fait les éléments, puis on fabrique tout, et puis on fait, moi j'ai l'impression de, ouais, je joue à la...
Prends un objet, tu vois, tu prends le cochon, il peut très bien se passer un truc incroyable entre ce cochon qui fait devant un paquet de cigarettes. Et tu te dis, tiens, il y a peut-être une thématique un peu dramatique qui peut se mettre en branle, parce qu'entre un mégot, un cochon, un verre à moitié rempli et un paquet de cigarettes, si tu commences à lire les signes, en dehors des maladies graves, en dehors de la viande du cochon qui est tout en... Il y a peut-être une espèce de swing dramaturgique qui peut se mettre en branle. Alors c'est vrai que si on part sur Prélude à l'agonie, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait comme projet ? Sophie a dit, on va faire un péplum. Et puis je lui dis, ouais, mais le péplum, le théâtre est plein de péplum déjà. L'origine du théâtre est due à cette époque-là. Le rockabilly, c'était en 1950. Le théâtre, c'était peut-être moins 430 avant Jésus-Christ. Et puis les types étaient déjà habillés en péplum. Donc et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait foutre de l'idée du western sur scène ? Puis après, tu fais un truc presque enfantin, c'est-à-dire que tu dis le western, c'est un indien, de l'eau croupie, une danseuse de French Cancan, un type qui rentre dans des portes de western.
Mais là, ce qu'on peut voir sur le mur, c'est par exemple, c'est les images de Prélude. Ça, c'est des images, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je cherche des images, on commence à parler d'un spectacle, et puis, alors voilà, il y a les cadavres d'animaux.
Une salle de, on dirait un saloon, qu'est-ce qu'on voit d'autre ?
Une petite fille un peu rondelette sur un cheval en bois, il y a une grosse bûche qui est tombée sur une vieille bagnole, il y a Il y a un couple qui a l'air de jouer de la country. Et en fait, on a des images comme ça qu'on met pour chaque... Parce qu'il y a des styles pour les spectacles.
C'est ce que j'allais dire.
C'est-à-dire qu'on part de...
Et ça démarre avec le coup du cric. C'est quand on a fait le coup du cric.
Donc, votre première collaboration officielle en 2004.
Qui était une pièce sur l'idée du cabaret, pour en finir avec le cabaret. C'était une époque où tout le monde faisait des cabarets. Cabaret de DJ, machin, tout le monde... C'était le 12e revival du cabaret depuis 30 ans. Et qui a un nouveau revival, le cabaret. Là, ça redémarre encore. Et qui est là. Le musical, c'est la souche même. Le musical, le carnaval, c'est la souche même de l'arsenic. Le mec, il arrive, il se met devant tout le monde, et puis... soit il ira un bout de la fontaine, soit il tapera sur une casserole, soit il mettra un masque pour ressembler soit à l'ours, soit à sa grand-mère. Il se rend compte que l'ours et sa grand-mère, c'est la même chose. C'est la grotte de Lascaux de l'arsenic. Et du coup, quand on avait fait cette pièce, le coup du cric andalou sur le cabaret, ça démarrait par le croisement de l'expérimental et du boulevard sur une scène sérielle. Et c'était, la situation, c'était un apéritif. Genre un apéritif un peu petit bourgeois, comme ça, dans un petit salon. Et on se disait, qu'est-ce que c'est le coup du cric? Qu'est-ce que c'est l'époque du coup du cric? Le style du coup du cric? C'est-à-dire que tu pars de rien, c'est-à-dire que c'est le problème de l'imagination. Et tu essayes de brider l'imagination et de lui donner une forme. Alors on se dit, tiens, bah, allez, pour le coup du cric, les gens, la mode du coup du cric, c'est que les gens portent des capes doublées, et elles sont doublées avec des œuvres d'art, et donc qui est typiquement un truc bourgeois, bobo, où donc ça part de principes extrêmement simples comme ça visuellement. Et après, rentre dans la danse Arnaud Labelle-Rojou, auquel on propose d'écrire un texte, et puis il écrit un texte de discussion, et ça parle de Jérôme Bosch. On se dit, putain, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Et l'accumulation n'est qu'une accumulation d'emmerdements, en fait. On écrit, on réécrit et on remodèle l'emmerdement. Et ça donne.
C'est comme ça que Pacôme Thielman est intervenu aussi avec Prélude à l'agonie.
Et Pacôme, quand on s'est associé sur Prélude à l'agonie, c'était ça. C'était l'idée de. On se dit, tiens, à la même époque, t'as le général Pershing qui tue les Indiens et puis c'est concomitant avec Courteline. Qui est en train de faire des conneries à l'auberge du Petit Clou en bas de Trudaine. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ces mondes parallèles, en fait. Le même jour, t'as Courteline qui est en train de faire des âneries. C'est quand même confondant. T'es devant un espèce de gouffre spatio-temporel qui est de la pure science-fiction permanente, quoi. Et ça... Alors, peut-être que ça s'appelle l'inspiration, mais ça se constitue comme ça.
Mais dans tout votre théâtre, il y a eu des questions de changement d'échelle.
Oui.
C'est le premier truc qui m'avait marqué, moi, au théâtre, c'est la coexistence d'échelles impossibles.
Mais tu sais, je dis souvent que le Zéreb, c'est un peu l'île du docteur Moreau du spectacle vivant. C'est-à-dire que...
Une magnifique conclusion.
Eh oui, c'est-à-dire, je revoyais l'île du docteur Moreau avec Marlon Brando, la scène où ils arrivent tous et lui jouent ils essayent de jouer du piano et lui, il est un peu terrorisé, puis il se met à leur jouer un air pour les calmer et ils sont tous là avec les groins, certains, des oreilles, un collier, enfin, et je trouve que le Zéreb, c'est un peu...
C'est vrai que dans la version dont vous parlez, Marlon Brando ressemble un peu à un décor du Zéreb.
Mais oui, puis il a ce truc que j'avais oublié, c'est qu'il a un cylindre métallique sur la tête où il met de l'eau froide,
voilà.
Parce qu'il a trop chaud, et c'est quand même, j'ai revu ce film, c'est quand même, et je trouve que le Zéreb, c'est ça, c'est l'île du docteur Moreau du spectacle vivant.
Alors on
il
va
y a Pierre Brasseur aussi.
Hélas, quitter l'île du docteur Moreau du spectacle vivant, mais c'est pour peu de temps. On peut parler donc du prochain spectacle.
Oui,
Sophie Pérez, un rendez-vous. Donnez-nous rendez-vous.
Alors donc déjà, on a rendez-vous au Rond-Point pendant 3 semaines, du 10 au 29. On va faire des performances, 5 performances pendant 3 semaines au Rond-Point. Ensuite, on fait les 40 ans de Beaubourg.
On sera là.
Voilà, ça va être formidable.
On serait...
Oui, on a tout l'espace Magritte, mais sans les œuvres.
Bah oui, vaut mieux.
Quoique.
Stéphane Roger, Rose Magritte.
Donc on a ça, on a la reprise de Biopics au Rond-Point en avril, on a la création de Babarman, mon royaume pour un cirque, au mois de mai au Théâtre des Amandiers. Et entre-temps, on va être à l'atelier.
Merci Sophie Pérez, merci Xavier Boussiron.
Merci à vous surtout.
Ouais. À fort bientôt. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Yann Frécy, Patrice Klein, Georges Robert, Claire Martin-Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesnet, Sixtine Audebert, Paco Mtielman, Antoine Guillot et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette incursion chez ZEREP. On se retrouve samedi prochain avec Nan au Rousseau. Bonsoir à tous et maintenant, Métronomique, Amaury Chardot.